Alors, qui dans la salle connaît des journalistes? Des journalistes dans la famille, des connaissances? Merci de lever la main, ceux qui ont des journalistes.
Je leur ordonne de se rendre sur le champ, faute de quoi nous attaquerons le palais.
Nous sommes ici par la volonté et en mission pour Cléopâtre.
Mais je voulais avoir votre sentiment sur cette grande question-là du basculement culturel d'aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'en l'an 2000, les messieurs porteront des robes?
Génial! Sauf que nous, on pose une question politique, on pose une question de société.
À votre avis, l'Hexagone, qu'est-ce que c'est?
C'est un rond à deux côtés.
Un quoi?
Un rond à deux côtés.
Deux côtés, ouais. Vous êtes sûr?
Oui.
La quotidienne, le rendez-vous de la rédaction de Jet FM.
Un outil de création et de diffusion qui n'a jamais eu de précédent dans notre histoire. C'est une révolution totale qui est occupée de s'accomplir.
Du lundi au vendredi à 18h.
Vous êtes bien dans la quotidienne. Aujourd'hui, nous allons écouter l'écho des mots silencieux. Ces mots percutants que l'on voit sur les murs, dans nos rues, depuis plus d'un an maintenant. Le 14 juillet dernier, 6 membres du collectif de collage féministe de Nantes, qui dénoncent, comme son nom l'indique, les féminicides, les violences sexistes et plus généralement les discriminations envers les minorités, ont été interpellés par la police et mis en garde à vue. 4 d'entre elles risquent la prison ferme ou une amende pharaonique. Les conditions de cette interpellation posent question. Et cette quotidienne s'attache à donner une voix à celles et ceux qui militent contre les violences et les injustices. Si coller peut être considéré comme un délit, mais pas comme un crime, le récit de cette nuit, rapporté par une des colleuses nantaises, dit beaucoup sur l'évolution des rapports de force et de confiance entre l'État, les forces de l'ordre et les citoyens, et notamment au niveau des violences policières. Tout de suite, nous retrouvons une des colleuses nantaises pour nous parler du collectif, de ses revendications et de l'interpellation du 14 juillet dernier. Puis nous retrouverons Maître Pierre Huriet, avocat de l'une des interpellées, qui tentera de nous éclairer au mieux sur ce dossier. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes membre du collectif des colleureuses de Nantes.
C'est ça.
Un moyen d'interpeller sur une problématique qui est essentielle aujourd'hui, les féminicides et les violences sexistes de manière plus générale.
C'est bien ça.
Est-ce que vous pourriez nous raconter en bref l'histoire de ce collectif, notamment de ce collectif à Nantes?
Donc en fait, les collages, ça a commencé à Marseille et à Paris, donc il y a un an, en août 2019. À la base, c'était des collages uniquement qui concernaient les féminicides. C'était pour rendre fémage aux femmes mortes, assassinées soit par leur conjoint, soit par leur ex-conjoint. Et à Nantes, ça a débuté quasiment aussitôt, donc en août 2019 également. Mais en fait, très rapidement, ça s'est étendu à d'autres sujets sur le sexisme de manière générale. On essaye aussi de suivre beaucoup l'actualité, donc récemment, on a aussi fait des collages sur le mouvement Black Lives Matter, sur les violences policières, enfin voilà, on essaie de suivre l'actualité par rapport à toutes les discriminations et les violences qui ont lieu.
Vous étiez combien initialement dans ce collectif?
Au début, en fait, ça a commencé par juste quelques personnes, plutôt qui collaient, je pense, entre amis. Donc à Nantes, ça a dû commencer par une dizaine, une vingtaine de personnes maximum. Ça a augmenté assez vite, et plus le temps passe, plus ça augmente vite. Là, on est sur Nantes. Dans le collectif, on doit être à peu près 60, je dirais. Mais il y a aussi des gens qui collent et qui font pas partie du collectif. Et qui, par exemple, nous envoient les photos pour qu'on les mette sur le Instagram. Et on a, là, en ce moment, on a une soixantaine de personnes en attente de rentrer dans le collectif.
Comment les gens rentrent dans le collectif?
Alors, le premier critère de notre collectif, c'est qu'on est en mixité choisie. Donc on accepte toutes les personnes sauf les hommes cisgenres, ça c'est hyper important pour nous. Et puis sinon, il n'y a pas de critère particulier si ce n'est être majeur, parce que c'est nous mettre en danger que de coller avec des personnes qui sont mineures. De manière générale, les gens ils entrent soit par le biais de connaissances, soit en nous envoyant des messages sur les réseaux sociaux. Après on ne peut pas donner trop de détails sur comment faire rentrer les gens dans le collectif, parce que ça nous mettrait en danger. Mais de manière générale, tout le monde peut rentrer sans problème. À Nantes, on est organisé par quartier, puisqu'on est assez nombreuses. Donc on a des groupes de quartier. Quand une personne a envie de faire une session, elle envoie un message. Chacune ramène ses slogans, qui sont quand même décidés ensemble auparavant. En tout cas, on a des règles assez strictes sur les slogans pour pas écrire des choses problématiques, notamment. Et puis au niveau des rôles, non, ça se décide sur le moment, ça change même pendant la session. Il y a une personne qui passe la colle sur le mur, une personne qui pose les feuilles, une personne qui repasse le pinceau par-dessus, et puis les autres personnes autour qui guettent en général s'il y a des passants ou la police qui passe.
Finalement, vous agissez dans un espace public, donc j'imagine que vous avez déjà dû coller au moment où passaient des personnes ou des policiers. Est-ce que vous avez déjà apostrophé? Et surtout, est-ce que vous avez des exemples de moments positifs ou négatifs avec ces passants?
On a effectivement les deux. On a et des passants, des passantes qui sont... Enfin, surtout des passantes, pour le coup, qui nous remercient, qui nous applaudissent, qui nous félicitent. C'est d'ailleurs des moments qui sont très très forts. Et puis on a, du coup, notamment des passants, même s'il y a quelques passantes, mais c'est quand même majoritairement des hommes, qui ont des commentaires négatifs, qui nous insultent, voire qui nous violentent.
Alors, physiquement, à Nantes... Qui vous approche physiquement?
Récemment, il y a eu une maman d'une élève d'un lycée sur lequel on collait qui s'est approchée des colleureuses, qui les a menacées, qui a jeté les seaux de colle par terre, qui s'est approchée très près pour leur enlever leur masque. Donc ça, c'était l'altercation la plus violente qu'on ait eue physiquement. Il y a eu aussi quelques jets de bouteilles. Pour Nantes, c'est le plus grave physiquement qu'il y ait eu par les passants. Mais très récemment, le plus grave qui est arrivé, c'est à Montpellier. Un homme qui a foncé en voiture sur des colleuses qui étaient sur un pont. En fait, c'est quelqu'un qui les a d'abord menacés de viol. Il est passé sous le pont. Il s'est arrêté sur la route. Il les a menacés de viol. Et puis, 10 minutes après, il est remonté sur le pont en sens interdit, vraiment pour aller vers elle. Et il leur a foncé dessus en voiture. On a beaucoup d'hommes qui retirent nos slogans ou qui les détournent, soit en ajoutant des lettres, soit en retirant. Donc par exemple, pour si un slogan avec écrit le mot violeur, ils vont rajouter euse, pour que ça fasse violeuse. Et on a beaucoup aussi, maintenant on fait quasiment plus de slogans à la négation, parce que sinon ils enlèvent la négation. Il y a notamment un slogan très fort qui a été modifié, qui était « dormir n'est pas consentir ». Et ils l'ont modifié en « dormir et consentir ».
Nous avons évoqué la question des risques que vous prenez du coup à coller dans la rue, des messages forts et assez directs, assez percutants. Cet été, en juillet, si je ne me trompe pas, 6 d'entre vous ont été interpellés au motif de violence en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Est-ce que vous pourriez nous faire le récit de cette nuit, étape par étape?
Donc on était dans le centre-ville de Nantes et on s'est fait interpeller par deux agents de la brigade canine à côté d'un collage... qui disait « liberté, égalité, impunité ». Ils nous ont demandé ce qu'on faisait là, donc on a répondu qu'on se promenait. Et puis tout de suite, ils nous ont demandé donc, si c'est nous qui avions fait le collage. Ils nous avaient pas vus en train de coller, on a répondu que non. Ils nous ont demandé tout de suite à fouiller nos sacs. Faut savoir que c'est interdit de fouiller les sacs quand il n'y a pas de flagrant délit de quoi que ce soit. Donc on leur a dit qu'on connaissait nos droits, qu'ils n'avaient pas le droit de fouiller nos sacs. À ce moment-là, il y en a une de nous qui a sorti son téléphone pour filmer ce qui se passait, au cas où ça dégénérait. Et tout de suite, il y a un des deux policiers qui s'est énervé, qui a voulu prendre son téléphone, qui l'a poussé dans un recoin d'une entrée de magasin, probablement pour pas que ce soit vu par les caméras de surveillance, et puis pour qu'elle puisse pas sortir. Et il l'a étranglé, il lui a fait des clés de bras, il a fini par réussir à prendre son téléphone. Et puis, on a toutes étaient surprises parce qu'effectivement ça a été très rapide, on n'a pas compris pourquoi d'un coup il devenait violent. Et même son collègue avait pas l'air trop de comprendre ce qui se passait. Il y a l'une de nous du coup qui s'est interposée parce qu'en fait elle criait qu'il était en train de l'étrangler. Donc on avait vraiment peur pour elle. Nous on a filmé tout ce qui se passait évidemment. Et donc celle qui s'est interposée s'est fait jeter au sol littéralement par ce même policier. Elle a essayé de se réinterposer et puis en fait très rapidement le deuxième agent du coup a descendu la rue pour regarder le nom de la rue et appeler des renforts, et peut-être 5 minutes après ils sont arrivés à 6-7 voitures et en fait donc les deux qui étaient physiquement aux prises entre guillemets avec les policiers se sont fait embarquer quasiment immédiatement avec des menottes beaucoup trop serrées. Et donc les 4 autres personnes qui n'ont eu aucun contact physique avec les policiers se sont fait mettre de côté par du coup les renforts, ont dû donner leur carte d'identité, que on nous avait jamais demandé auparavant, hein, parce que ça, c'était pas du tout un contrôle d'identité à la base. Et puis, tout le monde s'est fait embarquer, finalement. Et là, c'est j'allais dire que c'est l'enfer qui commence, mais en fait, il avait déjà commencé depuis un quart d'heure, en réalité. Donc, on est arrivé au poste et on nous a annoncé que, qu'on allait en garde à vue. Et donc, on est resté en garde à vue entre 21h et 22h. On a dû demander à plusieurs reprises pourquoi on était là, la raison de pourquoi on s'était fait embarquer, et les réponses, soit il n'y avait pas de réponse, soit ils refusaient de nous répondre, soit ils nous répondaient qu'ils ne savaient pas pourquoi on était là, donc ils suivaient juste les directives d'autres, enfin de leurs collègues.
Et malgré ça, ils ont réussi à vous garder 22 heures. Comment ils ont justifié le fait de vous garder autant en garde à vue ?
Alors, en fait... On a fini par savoir la raison pour laquelle on était là, donc le motif c'était rébellion. Non, c'est résistance violente. Et donc finalement, la raison pour laquelle on était là officiellement, c'était résistance violente en réunion et sans armes, contre personne dépositaire de l'autorité publique, quelque chose comme ça. À savoir qu'il n'y a pas eu de résistance, puisqu'on a juste dit non à la fouille de sac, qui est illégale, et non pas un contrôle d'identité, puisqu'ils nous ont même pas demandé nos identités en fait. Et que, de plus, c'est pas nous qui avons été violentes, mais bien eux. Et puis, voilà, on a dû souffler dans le ballon, ensuite, on a donné nos identités, et puis on s'est fait mettre en cellule, toutes séparément, donc on était seules en cellule. Donc on arrive en cellule, on est toutes séparées, et on arrive toutes dans des cellules plus ou moins identiques, c'est-à-dire pas lavées, avec du sang, des crachats, des déjections sur les murs, sur le sol.
Et ça, en période de Covid.
En période de Covid, avec des policiers qui ne portent pas le masque, malgré qu'on leur demande, également. Donc effectivement, les conditions sanitaires catastrophiques. Des matelas déchirés, avec beaucoup de déjections aussi, donc... Il y a des personnes qui n'ont même pas pu dormir dessus tellement ils étaient sales, qui ont dormi au sol, du coup. On est dans des cellules où il y a des toilettes à la turque, mais on n'a pas le droit à nos chaussures. Donc on est en chaussettes dans la cellule pour aller aux toilettes, sur des toilettes à la turque qui sont pas nettoyées, c'est catastrophique. Bon, en plus on est filmé en permanence, donc ça rajoute un côté très anxiogène également. Et puis on passe la nuit avec une couverture de survie par personne, et c'est tout. Donc on a froid, on n'est évidemment pas bien installé, et puis bah, on n'arrive pas à dormir parce qu'on comprend toujours pas pourquoi on est là en fait, on comprend pas ce qui se passe. Et puis on peut pas communiquer les unes avec les autres, ce qui est aussi très très difficile. On est dans des cellules où la lumière est allumée en permanence et où on voit pas de fenêtre, donc on sait pas quelle heure il est, si c'est le jour ou la nuit. On sait pas du tout comment le temps passe. Quand on appelle, parce qu'on a besoin de papier toilette par exemple, ils peuvent mettre une demi-heure jusqu'à une heure à venir. Je pense que le but c'est qu'on avoue tout et n'importe quoi, même des choses qu'on n'aurait pas fait, pour pouvoir sortir, parce qu'effectivement c'est des conditions qui sont assimilables à des conditions de torture en fait. Hein. On comprend pas aujourd'hui comment c'est possible qu'en France, on laisse des gens passer autant d'heures dans des conditions pareilles, c'est pas normal du tout. Donc voilà, on passe la nuit là-bas, et puis le lendemain on voit notre avocat, avocate... Puis on passe en audition avec un OPJ. On avait plusieurs OPJ différents. Et on a tout entendu des choses très particulières. Donc déjà, ils mettent beaucoup la pression. Ils nous manipulent très clairement. Puis on a eu la version, là, des deux policiers qui nous ont agressés. Qui était que nous leur avions sauté dessus toutes les six pour les faire tomber au sol. Que au moment où ils étaient sortis de la voiture, on avait hurlé... Nous, on est féministes, on n'aime pas les hommes et la police. Qu'est-ce qu'on a entendu d'autre de complètement incohérent ? Donc, ils ont dit qu'on avait essayé de leur prendre leur arme, qu'on les avait poussés, enfin, que des choses évidemment fausses.
Ça, c'est ce qu'ils ont déclaré officiellement, à l'audience.
Alors, soit c'est ce que les deux policiers qui nous ont interpellés ont déclaré, soit c'est ce que l'OPJ a inventé pour nous faire dire des choses fausses. Ça, on n'en sait rien, parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui ce qu'il y a dans le dossier, en fait. On ne sait pas encore ce que les deux policiers ont déclaré. On le saura qu'avant le procès. Donc pour l'instant, on n'en sait rien, mais de toute façon, je pense que les OPJ qui nous ont interrogés connaissaient la vraie version, mais que juste ils se protègent tous entre eux, très clairement. Peu importe qui a inventé la version, et de toute façon, au moment où on est arrivé dans le commissariat, on a vu les deux policiers qui nous ont interpellés s'enfermer dans un bureau pour discuter tous les deux. Qu'à partir de là, on savait très bien qu'ils allaient inventer une version totalement fausse.
Mais la différence, c'est qu'eux, ils étaient ensemble pour communiquer, c'est ça. Vous étiez isolés.
Et nous, on était séparés.
Ouais.
Sauf que nous, on n'a pas menti, puisqu'on n'a pas été violentes. Donc, ils nous ont séparés, oui, mais en fait, on avait la même version, puisque c'était la vérité. Donc, en soi, c'est peut-être même pas plus mal qu'on ait été séparés, je sais pas. Peut-être que ça va jouer à notre faveur au procès. Voilà, et puis sinon, les questions qu'on avait pendant l'audition, c'était beaucoup sur nos convictions. Donc, est-ce que vous êtes féministe, à quel mouvement vous appartenez? Enfin, on avait l'impression d'être des terroristes, très clairement, dans leur manière de parler. On a aussi remarqué que par rapport à l'âge, le comportement des policiers était différent. Donc, celle qui était la plus âgée, qui avait la cinquantaine, était considérée comme la meneuse. On lui parlait bien plus mal qu'à nous, même si on nous parlait déjà très mal à nous. Les policiers venaient quasiment jamais quand elle avait besoin, soit de voir un médecin, soit quand elle frappait à la cellule, en tout cas. Et c'est d'ailleurs elle qui est sortie en dernier du commissariat. Et au moment où les dernières personnes sont sorties avant elle, les policiers ont dit, de toute façon, elle reste une nuit de plus. Et en fait, au moment où on est sortis, donc on attendait devant le commissariat, elle est sortie 15 minutes après nous. Mais ils ont dit ça pour que nous, on sorte, qu'on s'en aille, et qu'on soit pas là au moment où elle sortait du commissariat. Donc pour la laisser seule. Ils en avaient vraiment après elle, ça se voyait. Et donc pendant les auditions, ils nous ont aussi beaucoup demandé qui était la meneuse du groupe, qui nous avait entraînés là-dedans, enfin voilà. Alors que nous sommes un mouvement totalement horizontal, et qu'il y a absolument personne qui ne mène quoi que ce soit, ni qui que ce soit dans le mouvement. Au moment où on est sorti, il y avait beaucoup de monde qui nous attendait devant le commissariat. Ça a été quand même très très fort en émotion. Après, on a reçu beaucoup de messages de soutien d'autres collectifs de collage, même de manière mondiale, donc de Londres, de Montréal, et puis de quasiment toutes les villes de France. On a eu aussi du soutien de d'autres collectifs militants. Et puis on a reçu des messages de professionnels de la santé, qui acceptaient de nous suivre de manière bénévole, donc psychologues, médecins, par rapport au traumatisme que la garde à vue et l'interpellation ont créé.
Du coup, ce traumatisme, il a été constaté par des professionnels de la santé qui sont venus vers vous proposer leurs soins.
Complètement, complètement. Le traumatisme a été constaté, il y a aussi des blessures physiques qui ont été constatées pour les personnes qui se sont fait violenter physiquement. Et puis, on est plusieurs à être encore en chemin vers la guérison, parce que le traumatisme, il est encore là, il n'est pas encore guéri. On est encore plusieurs à, quand on croise une voiture de police, avoir peur. On fait quand même partie d'un collectif où, si on est là, c'est que, pour beaucoup d'entre nous, on a vécu des choses difficiles avec les hommes. On a subi des violences sexistes dans notre vie. Bon, d'ailleurs, comme, je pense, la majorité des femmes et la minorité de genre. Et en fait, aujourd'hui, même les personnes qui sont censées nous protéger nous font peur. Donc c'est plus difficile de sortir de chez soi. Voilà, on a plus confiance en personne, en fait, si ce n'est en nos adelphes, quoi. Adelphes, c'est le terme qu'on utilise pour parler de... C'est comme le terme sœur, comme la sororité, mais c'est pour parler de manière plus générale et plus inclusive, donc des personnes non-binaires, des hommes trans, etc.
Quel message ça fait passer aux citoyens par rapport aux forces de l'ordre qui sont censées dans un premier temps les protéger et surtout aux femmes victimes de violences policières qui doivent forcément passer par la case police pour porter plainte?
Déjà, aujourd'hui, on le sait qu'en France, les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles sont très très mal reçues en commissariat, encore plus à Valdecrousseau. C'est un des pires commissariats de France au niveau de la manière dont les victimes sont reçues. Je sais pas ce qui nous est arrivé a changé la vision de certaines personnes de la police, parce que je pense que c'est des personnes qui avaient déjà une vision très négative. Par contre, nous, le message que ça nous fait passer, c'est que, donc, par exemple, dans les 6 personnes qui ont été interpellées, on est plusieurs à déjà avoir voulu porter plainte pour des violences. Nos plaintes ont été refusées. On va coller, là en l'occurrence, un slogan liberté, égalité, impunité par rapport à ce qui se passe au ministère en ce moment, enfin ce qui s'est passé au mois de juillet. Et c'est nous qui allons en garde à vue et qui sommes accusés, parce qu'en plus on va en procès, qui sommes accusés de violence, etc. Donc on est quatre à risquer 3 ans de prison et une à risquer 5 ans de prison. Et je ne sais plus combien de milliers d'euros d'amende, j'ai plus les chiffres en tête. Mais c'est vrai que ça montre qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir confiance en la justice, en la police. Et c'est extrêmement grave. C'est très très grave. Effectivement, ils se protègent tous. Et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est, nous, on est là. On n'a aucun pouvoir, si ce n'est le nombre. Et aujourd'hui, le nombre, il est compliqué à avoir parce que les gens, ils partent parce qu'ils ont peur. Même aller en manifestation aujourd'hui, c'est hyper dangereux. On ne peut plus y aller avec des enfants. On ne peut plus y aller avec des personnes... fragile, etc. Enfin, c'est quand même assez impressionnant, quoi. On peut plus aujourd'hui lutter pour nos droits, quoi.
Parce que ces derniers événements, ça a changé la dynamique du collectif. Est-ce que ça vous pousse à peut-être, malheureusement ou heureusement, revoir vos façons de faire pour vous protéger encore plus?
En fait, donc quand on colle, on sait que coller c'est illégal, bien sûr. Les personnes qui collent savent qu'elles le font de manière illégale. Mais normalement, ce qu'on risque, c'est juste une amende. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'ici en tout cas, on collait quand même de manière légère, si je puis dire, parce qu'on se disait qu'au pire, on aurait à payer une amende, ou alors ils relèvent les identités, mais c'est tout, quoi. Depuis qu'il y a eu la garde à vue, on se rend compte qu'effectivement, on peut pas suivre, que la loi ne suffit pas à nous protéger. Et donc il faut qu'on se protège autrement, donc effectivement on repense complètement le collectif. Alors je sais pas comment ça se passe dans les autres villes, parce qu'il y a que à Nantes qui a eu de la garde à vue, donc je sais pas si ça a eu un impact sur les autres villes. Mais nous par contre on repense complètement tout ça, on s'informe beaucoup plus sur nos droits, on s'informe beaucoup plus sur la manière d'agir en garde à vue, sur la manière d'agir face à la police. Alors pareil, on peut pas trop en dire non plus, mais même... C'est pour ça qu'aussi il y a tellement de gens en attente aujourd'hui de rentrer dans le collectif. C'est qu'on se pose vraiment la question de comment mettre ces personnes en sécurité. Et puis on peut plus prendre des gens dans le collectif sans leur dire tout ce qu'il est, elle, risque. Parce que les garde à vue, c'est quand même traumatisant. Et on comprenait qu'il y a des gens qui ne veulent pas coller à cause de ça, quoi. Donc effectivement, tout le collectif est repensé aujourd'hui sur comment on peut agir en nous mettant au maximum en sécurité.
Tout en ayant pour projet de continuer en collant.
Bien sûr. On ne veut pas que ça nous fasse peur au point d'arrêter, parce que c'est bien sûr leur but, et on ne veut pas se laisser faire. Non, c'est hors de question. Même si, dans les personnes qui ont été en garde à vue, tout le monde ne recolle pas, il y en a qui ne veulent plus du tout recoller parce que ça leur a fait vraiment trop peur. Mais, de manière générale, ça n'arrêtera pas le mouvement, ça c'est sûr.
Ouais, parce qu'il y a encore des choses à dire, justement, et à coller.
Il y a encore des choses à dire, il y a encore plus de choses à dire, parce qu'en ce moment, on a l'impression que c'est de pire en pire. Donc non, on n'arrêtera pas, et on continuera effectivement de faire du bruit et de les déranger, puisque c'est le but.
Vous êtes toujours dans la quotidienne sur Jet FM. Nous venons d'entendre une des interpellées du 14 juillet dernier. Tout de suite, la parole est à Monsieur Huriet, avocat au barreau de Nantes et habitué du milieu militant.
Bonjour, maître Pierre Huriet. Vous êtes avocat au barreau de Nantes et vous êtes investi auprès d'une des interpellées du 14 juillet dernier, interpellation qui a eu lieu près d'un collège féministe et dont on vient d'entendre le récit. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur ce dossier? Où en êtes-vous actuellement?
Eh bien, actuellement, nous sommes en attente du jugement pour les interpellées, puisque elles sont poursuivies, pour résumer, pour ou des violences ou des rébellions sur... Les forces de l'ordre.
Est-ce que vous pourriez nous dresser un cours historique de ce dossier et notamment nous expliquer de quelle manière vous êtes entré en contact avec votre cliente, quelles ont été les étapes entreprises jusqu'alors avec elle notamment?
Moi, j'ai été contacté à leur sortie de garde à vue par certaines d'entre elles, et puis après elles se sont organisées pour mettre au point leur défense avec différents avocats, puisqu'elles sont assez nombreuses à être poursuivies. On est en train de préparer ça. La difficulté, c'est que pour l'instant, comme c'est hélas trop souvent le cas, on n'a pas encore la copie du dossier. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on nous reproche, on sait ce qu'on nous reproche au sens général, on sait les infractions qu'on nous reproche, mais on n'a pas le contenu de l'enquête de police. Donc on en fait régulièrement la demande, on espère bien évidemment l'avoir suffisamment tôt avant l'audience, sinon on sera obligé de demander le renvoi.
Ces personnes, les interpellées dont on parle, elles font partie du collectif de collage féministe de Nantes et elles ont publié un communiqué de presse il y a quelques temps de cela, du coup, où elles racontent ce qui s'est passé cette nuit-là, la violence de l'interpellation, et elles évoquent plusieurs chefs de prévention, dont violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique sans ITT. Et du coup, l'une d'elles est accusée de cela et elle risque jusqu'à 3 ans de prison, il me semble, et 45 000 euros d'amende. Et un autre chef de prévention qui est « avoir sans armes et en réunion, opposer une résistance violente ».
Et oui, c'est la rébellion.
Voilà, c'est ça. Et ces chefs de prévention, elles en sont accusées. Et même si l'action de la police était illégitime, ce chef de prévention sera encore valable. Comment expliquer cela ?
Alors en fait, c'est une source de conflit sans fin devant les tribunaux, mais qui est toujours pour l'instant tranchée de la même façon. On est sur des jurisprudences qui datent d'une près d'une centaine d'années et qui ne bougent pas. Même illégitime, même si l'ordre est illégitime, on doit se soumettre à l'ordre de la police. Je ne dis pas que je suis d'accord avec cette règle, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'elle est interprétée. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit de s'opposer à l'interpellation. Si on a raison, si notre comportement était justifié, ça sera reconnu a posteriori, mais en tout cas, on doit se soumettre à l'ordre de l'agent interpellateur. Voilà, c'est comme ça que fonctionne l'infraction. Alors, l'infraction de rébellion en elle-même, elle ne tient pas forcément, puisqu'il faut que les agents de police caractérisent une résistance violente. C'est-à-dire que si on résiste passivement à une interpellation, il n'y a pas de difficulté, ce n'est pas une infraction. Ça peut énerver les policiers, mais pour le coup, ce n'est pas infractionnel. Voilà, on peut voir ça régulièrement chez les militants, notamment anti-nucléaires, quand ils s'opposent à des passages de convois. Voilà, on s'enchaîne les uns aux autres, on fait masse, on s'oppose à l'interpellation par l'inertie liée au poids du corps, etc. etc. Ça, des comportements notamment non violents, ne posent aucune difficulté. C'est pas de la rébellion, et même si c'est poursuivi, ça ne sera pas condamné parce qu'on ne caractérise pas une violence de la part de celui qui résiste. Mais si on résiste violemment, même si l'ordre au départ était illégitime, pour l'instant, en l'état actuel du droit, mais surtout la jurisprudence qui pêche, on n'est pas bon. Si c'est une résistance non violente, ce n'est pas une infraction.
Très bien. Et ce qui est considéré comme non violent, c'est seulement, avec l'exemple que vous nous citiez, des manifestants, notamment antinucléaires, qui utilisent l'inertie, etc.
C'est un exemple qui vient d'être. Après, il y a plein de situations. Après, la difficulté, c'est que c'est une infinité de situations de fait. C'est pas un type de comportement qui est bon et tous les autres qui seraient pas bons. C'est l'inverse. C'est certains comportements qui sont pas bons, parce qu'ils caractérisent une violence, c'est-à-dire des gestes dirigés vers autrui avec la possibilité de le blesser. Si on est sur des gestes dirigés vers personne juste pour empêcher le menottage, on est bon. Si on est sur l'absence de gestes, mais qu'on résiste, c'est-à-dire qu'on se crispe et qu'on ne veut pas bouger, on est bon. Enfin, mais ce qu'il ne faut pas, c'est des gestes dirigés vers autrui avec cette possibilité de blessure. Ce n'est même pas une nécessité que les coups aient forcément porté, mais qu'on ait cette possibilité intrinsèque de violence. Donc,
en ce qui concerne une définition à mettre au clair peut-être, est-ce que vous pourriez nous rappeler la différence entre un délit et un crime et nous dire le collage dans la loi, qu'est-ce qu'on en dit ?
Alors, la différence entre délit et crime, c'est une question de graduation. En fait, les infractions en France sont graduées de 3 sur une échelle de 3. Les plus graves, ce sont les crimes, le meurtre, l'empoisonnement, le viol, l'assassinat, etc., etc., le braquage. C'est ce qu'on appelle des crimes, c'est les infractions les plus graves, c'est jugé devant la cour d'assises. Les délits sont les infractions intermédiaires et c'est la catégorie la plus nombreuse, on va dire, puisque ça va du vol jusqu'au trafic de stupéfiants, en passant par les violences, en faisant un détour par tout ce qui peut être association de malfaiteurs. Vous voyez, on est sur quelque chose d'extrêmement large, puisque la loi le réprime jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, 20 ans en récidive, et il y a certains délits qui sont punis de peines. Alors c'est très rare pour certains que de peine d'amende, mais sinon ça commence à 6 mois d'emprisonnement pour les outrages, genre de choses. Donc c'est une carrière extrêmement large. Troisième catégorie, les contraventions, qui ne sont sanctionnées que d'une peine d'amende, qui a aussi une catégorie assez large, mais peut-être un peu plus spécifique des fois. Ça va des tout ce qui est de contraventions sur le domaine routier, en passant par toutes les atteintes à l'environnement, enfin beaucoup d'atteintes à l'environnement, etc. etc. Voilà, c'est très large, mais là pour le coup c'est que des peines d'amende et c'est jugé en cas de contestation par le tribunal de police. Sur les affichages, là pour le coup, alors déjà, je ne tiens pas beaucoup à parler d'affichage, parce que en fait, c'est pas reproché à ma cliente ou à nos clientes. Aucune d'entre elles n'est poursuivie pour un affichage sauvage.
Elle a été interpellée pour
pour avoir collé.
Voilà, et moi je ne sais même pas si dans le dossier il y a quelconque preuve que l'une d'entre elles ait affiché quoi que ce soit, et je ne sais même pas si ce qui a été affiché ça n'avait pas la lettre ou c'était pas au bon endroit et tout. Donc, oui, moi pour l'instant je ne pars pas du tout sur ce terrain-là. Ça nous est reproché. Moi j'attends de voir qu'est-ce qu'on nous prouve concernant la réalité des violences, leur éventuelle légitimité. Qu'est-ce qu'on nous prouve concernant la rébellion l'éventuel caractère violent de la rébellion pour la caractériser, mais sur le reste, moi, pour l'instant, je ne me prononce pas. Puisque, de façon assez surprenante, on est même pas poursuivi, et c'est là que vous voyez la beauté du la facilité de ce délit de rébellion. Hein. Finalement, on n'est même pas poursuivi pour ceux qui motivent ou ceux qui motiveraient peut-être le contrôle de départ, mais ça n'empêche pas d'être poursuivi pour les conséquences de l'interpel. Ce qui est étrange, puisque c'est une forme d'aveu par le procureur que, a priori, il n'y avait rien à reprocher au départ. N'empêche que même s'il n'y a rien à reprocher au départ, il y aurait un comportement pas bon au niveau de l'interpellation.
C'est ça qui semble absurde quand on voit le témoignage de ces 6 personnes concernées par l'interpellation. Il n'y a rien qui justifie dans un premier temps cet enchaînement de violences ou d'accusations ait eu lieu. C'est aussi pour ça justement que je posais cette question, pour savoir si elles avaient pratiqué un collage en lien avec leurs convictions et leur collectif. Et qu'est-ce qui aurait pu leur être reproché pour ça, à elles ou à n'importe qui d'autre?
C'est compliqué parce que c'est un peu de la fiction. Il y a autant de réponses possibles que de scénarios envisageables. Ça devient vite un peu compliqué, mais en gros, le collage, ça peut être un délit, comme les tags, ou ça peut être une simple contravention, ou ça peut être rien du tout. Mais ce qui est clair, c'est que, vous vous en doutez, c'est pas le genre de délit où il y a mort d'homme et où, généralement, ça empêche la justice de dormir. Voilà, pour être très clair. Surtout, parce que là, ma réponse est un peu abrupte, surtout que se pose la question de qu'est-ce qui est affiché. Et il y a quand même en France des lois, des textes qui encadrent la liberté d'expression et la liberté de communication ou d'imprimer. Donc, il faudrait en plus, si c'était éventuellement reproché à nos clients, il faudrait en plus qu'on se pose la question, est-ce que cet éventuel affichage ne tombe pas sous le coup d'une protection de la liberté d'expression, la liberté de manifester une opinion politique, et voilà. En mettant en balance la gravité de l'atteinte éventuelle à la propriété d'autrui, c'est « Ah, mon Dieu, une affiche a été collée avec de la colle à l'eau », bon, voilà, par rapport à l'enjeu démocratique qui consiste à pouvoir placarder de façon temporaire des messages pas inintéressants, loin de là, sur la voie publique.
Jet FM 91.2.
En tant qu'avocat, vous êtes souvent cité et sollicité dans le milieu militant et activiste. On peut d'ailleurs lire dans un chapeau d'article de West France, « Maître Huriet s'est taillé une solide réputation dans la défense des militants et activistes ». Qu'est-ce que ça comporte comme singularité ou particularité et qu'est-ce que ça signifie finalement d'être considéré comme un avocat proche de la défense dans le milieu militant?
Écoutez, déjà, moi je suis toujours un peu embêté parce que c'est un boulot collectif. On est plusieurs avocats sur Nantes à faire notamment, parce qu'on ne fait pas que ça, ce type de contentieux. On est plusieurs à fonctionner en confiance et en réseau. Je pense à Metzalé, je pense à Maxime Gouache, je pense à Maude Schlafman, etc. Et aussi en France, on est plusieurs, dans plusieurs villes, on est plusieurs avocats à bosser ensemble, à s'échanger les trucs et astuces, à partager des bonnes décisions, des mauvaises aussi, à faire le point régulièrement en réunion ou en week-end de réflexion sur comment ça évolue tout ça, nos pistes de réflexion et tout. Voilà, je pense à des avocats sur Paris, Maître Kempf, Alice Baker, etc. Je pense sur Lille à Muriel Rueff. Voilà, donc c'est un boulot collectif qui est super intéressant, mais vous avez ce type d'organisation en réseau informel, vous le retrouvez aussi en droit des étrangers, sur des thématiques similaires avec des avocats qui sont super organisés pour essayer de lutter un peu contre la morosité ambiante en droit des étrangers. Donc voilà, après, ce que ça change sur l'exercice professionnel, pas grand chose. Je veux dire, de toute façon, le boulot d'avocat, c'est un boulot où on est indépendant et on porte la parole de client. Moi, ce que j'aime bien à la défense du monde militant, c'est que c'est des gens qui ont des trucs à dire, quoi. On n'est pas sur de la délinquance classique où les gens subissent généralement leur situation et essaient de s'en sortir. Là, on peut être sur des gens qui sont dans une situation difficile mais qui portent un idéal, qui porte un message avec lequel je suis assez d'accord, et ça motive d'autant plus. Les clients militants, c'est aussi des clients avec lesquels on peut partir sur des défenses de principe, sur des défenses de rupture, ce qui est intéressant, ce qui fait avancer les choses. Il y a des avancées importantes en termes de droits qui sont faites, malheureusement pour eux, grâce au monde militant qui se retrouve devant les tribunaux et qui fait avancer la cause. Je pense au FEMEN qu'on fait avancer justement la liberté d'expression en obtenant devant la chambre criminelle une relaxe pour une exhibition sexuelle face à Poutine, et la chambre criminelle a pu dire oui, mais cette infraction-là, elle s'efface devant la liberté d'expression qu'elle avait de passer un message anti-Poutine. Oui, c'est des avancées comme ça qui sont intéressantes et qui étaient permises notamment par la défense du monde militant. Donc voilà, c'est intéressant intellectuellement, c'est intéressant évidemment, mais bon, c'est pas du tout quelque chose qui se fait tout seul.
Il y a ce côté collectif du côté de la profession, et derrière ça, ce qui est intéressant, comme vous dites, c'est que vous pouvez défendre des clients qui sont conscients de leurs actes et de pourquoi ils le font, et vous pouvez aussi permettre à certaines lois ou certaines mœurs d'avancer dans un sens plus progressiste.
Exactement, et par définition, le monde militant est extrêmement divers, et on n'est pas d'accord avec toutes les causes qui cherchent à être avancées. Ouais, je serais un peu plus mal à l'aise avec c'est moins qu'on puisse dire avec certains mouvements plutôt de l'autre extrême droite, etc. Mais ils ont d'autres avocats, ça leur convient très bien. En tout cas, on peut aussi se retrouver dans un cadre professionnel à participer, à aider, c'est plutôt ça le terme, à faire avancer les causes qui nous tiennent à cœur.
L'impunité policière, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent. On parle du fait que l'IGPN protège les policiers et que la plupart des plaintes n'aboutissent pas. Est-ce que vous avez une explication à cela, ou est-ce que vous pensez que c'est juste un ressenti ?
Alors, c'est un ressenti, mais c'est un ressenti qui est exact. Au niveau nantais, on est plusieurs avocats à avoir régulièrement déposé des plaintes suite notamment aux manifs au travail, mais avant ça, y compris le premier ministre de la ZAD sur des violences policières faites en manifestation. Beaucoup de tirs de flashball de dos sur des personnes n'ayant rien à voir, hors contexte d'émeute, puisqu'on était sur quelques rues à part. J'ai des exemples d'une mère SSI qui repart tranquillement et qui se prennent des tirs de flashball à 3 mètres de distance dans le dos. Enfin, des trucs complètement délirants. Les plaintes sont déposées, ce qui n'est déjà pas quelque chose de facile, accompagné par un avocat qui suit la procédure, systématiquement classé sans suite par le parquet. C'est-à-dire que le classement sans suite, c'est le procureur de Nantes qui dit « Écoutez, moi, je n'ai pas de quoi poursuivre quelqu'un éventuellement devant un tribunal ou que ce soit d'ailleurs, je n'ai pas ou assez de preuves, ou alors je considère qu'il n'y a pas d'infraction. » C'est les deux motivations qu'on a régulièrement, et c'est systématiquement, mais je dis bien systématiquement, classé sans suite. Ce qui est intéressant, c'est que l'enquête de l'IGPN, de façon assez contre-intuitive, n'est pas bâclée. L'enquête de l'IGPN est plutôt bien faite, parce qu'une fois que c'est classé sans suite, on obtient, à notre demande, la copie des dossiers d'enquête, pour voir ce qu'on en fait. Et quand on regarde ces dossiers-là, on s'aperçoit que c'est juste que l'IGPN s'arrête juste avant de pouvoir éventuellement identifier des suspects parmi les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'on a tout le déroulé de la manif, on a toutes les forces présentes sur place du côté des forces de l'ordre, on a tous les officiers qui sont entendus. Donc on sait tous les hommes qui étaient présents sur la scène du crime, on va dire. Et là, l'IGPN s'arrête, écrit au procureur « J'ai fini mon enquête, qu'est-ce qu'on fait ?» Le procureur, pas dupe, regarde ça, dit « Oh bah tiens, dis-moi pas que c'est pas vrai, ils n'ont pas réussi à identifier le tireur du flashball, bon, bah classé sans suite parce qu'on sait pas qui c'est. » Et donc, c'est-à-dire que l'IGPN renvoie la balle au procureur en disant « Si vous voulez que j'aille plus loin, sous-entendu que je trouve exactement qui a tiré, c'est à vous de me donner l'ordre. » Et le procureur, trop content de voir que « ils se sont arrêtés juste avant d'identifier quelqu'un », ne donne surtout pas l'ordre de continuer l'investigation et dit « effectivement, là, on les a de l'enquête, on ne sait pas qui c'est, je classe. » Mais c'est pas tant un problème de l'IGPN, parce que le premier effet qu'on peut avoir, c'est de se dire « l'IGPN couvre les siens ». C'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est, moi, je trouve plus inquiétant, parce que le regard extérieur sur la police, c'est-à-dire le procureur, celui qui représente la société et qui, notamment, dirige l'action des forces de l'ordre en matière de police judiciaire et en matière d'enquête, c'est le procureur qui, par opportunisme politique, couvre ce style d'enquête et ne demande jamais les investigations supplémentaires. C'est plus ça le souci à notre sens. C'est ces décisions de classement systématiques, sans même relancer les enquêtes, sans même dire « non mais attendez, vous allez plus loin ». Vous m'interrogez tous les membres de telle et telle unité qui étaient présents sur place au moment des faits, une enquête policière classique. Je veux dire, vous transformez policier par jeune de cité. L'IGPN, des policiers diraient au procureur, on a identifié 3 membres de bande présents sur les lieux d'un passage à tabac. Qu'est-ce qu'on fait ? Tout de suite, le procureur dit, vous m'interrogez les 3 et vous confrontez les points de vue pour trouver qui a fait quoi. Et ben, quand c'est les forces de l'ordre, voilà, vous changez jeune décidé par force de l'ordre. Cette étape qui consiste à confronter la parole des personnes sur place pour coincer et trouver le menteur, eh ben là, étrangement, c'est jamais fait. C'est là-dessus que ça pêche, mais ça pêche par inertie d'IGPN, et surtout parce que l'IGPN a beau jeu de dire, donnez-moi le procureur, il ne demande pas de le faire. Voilà, je suis très très en colère contre le procureur de Nantes, le procureur de la République de Nantes, qui systématiquement couvre des enquêtes qui ne vont pas au bout concernant les violences policières. Et donc si c'est comme ça à Nantes, j'ai pas beaucoup de doutes sur comment ça se passe à Paris, Rennes, etc. etc. Parce qu'a priori, ils n'ont pas plus de procès pour violences policières que chez nous.
Oui, on peut en faire la déduction assez facilement.
Je pense que la logique, c'est de dire, c'est une décision qui doit être politique que de poursuivre l'enquête contre des policiers. Moi, IGPN, bah, j'attends cette décision. Quand je dis politique, c'est au sens premier du terme, c'est-à-dire j'ai de la cité, un décideur. Donc ici, c'est le procureur. Voilà, c'est au procureur de prendre cette responsabilité-là. Moi, j'attends. Le procureur ne la prend pas. C'est dommage quand même pour les intérêts de la société. Voilà, je ne suis pas en train de me plaindre que le procureur systématiquement ne poursuive pas des gens devant les tribunaux. Je me plains qu'il ne fasse même pas le travail d'enquête jusqu'au bout. C'est ça, parce que après, il aurait beau jeu de éventuellement déformer les propos en disant, bah attendez, on va pas poursuivre tout le monde comme ça en aveugle dès qu'il y a une bague. C'est pas du tout ce que je dis. La logique, en tout cas l'expérience, montre que les dossiers d'IGPN s'arrêtent avant que toutes les investigations aient pu être faites pour confronter les éventuels auteurs d'infraction du côté des forces de l'ordre, et que je ne vois pas de dossier où le procureur ait demandé ces investigations supplémentaires à l'IGPN pour éviter le classement sans suite.
Si on fait la comparaison, comme vous disiez tout à l'heure, et remplacer le policier ou le représentant des forces de l'ordre par un jeune de cité ou un citoyen lambda, ça ne se passerait pas de la
même manière. Oui, là, vous inquiétez pas que tout de suite le procureur dit, attendez, vérifiez-moi ça, entendez telle et telle personne. J'ai en tête le cas d'un manifestant passé à tabac lors de manifs au travail, pas loin de Valdec, justement, là. C'est filmé, l'IGPN en enquête, on a les noms des unités, les codes des unités présentes sur place, et donc la shortlist des policiers ayant pu passer cette personne à tabac, l'IGPN s'arrête, hop, demande au procureur quoi faire, il classe ensuite. Parce qu'il ne dit pas, bah, il y a 6 personnes à entendre, vous m'entendez les 6, vous faites un tapissage et vous regardez qui ressemble aux gens sur la vidéo, et puis on va confronter leur témoignage aux preuves qu'on a sur vidéo, c'est pas fait. Donc ça nous force, nous, après les classements sans suite, à saisir un juge d'instruction, et à partir sur les instructions, à nos frais au départ, un petit peu verser une somme pour continuer, qui va prendre des années et des années, avec les policiers qui auront beau jeu de dire dans 3 ans quand ils seront entendus, bah écoutez, moi je me souviens plus.
Si c'est systématiquement classé sans suite, on peut imaginer qu'il est légitime de voir un véritable problème de fond, enfin un phénomène de société, un phénomène politique derrière tout ça. Et malgré ce côté systématique et problématique, il n'y a rien qui peut être fait pour contrer ça, pour pointer ça du doigt.
Moi, je n'ai pas d'éléments pour dire que les violences policières seraient systémiques. Moi, ce que je dis qui est systémique, c'est sur les dossiers qu'on fait parvenir au procureur, systématiquement, c'est classé sans suite. Oui, c'est pas... voilà, moi, sur la proportion de violences policières dans l'action de la police, je n'en sais absolument rien, j'ai pas de chiffres et j'ai pas d'avis à donner là-dessus, faute d'infos. Ce qui est certain, c'est que voilà, il n'y a pas vraiment de volonté d'enquête pour les quelques bavures qu'on fait remonter, ça c'est sûr. Après, sur quoi faire? Bah, judiciairement, ils ont pour eux quelque chose de malheureux, mais qui là, dans ce contexte-là, pour eux se transforme en chance, et l'état d'encombrement absolu de la justice. C'est-à-dire que ces décisions de classement interviennent après un an et demi d'attente. Et je vous l'ai dit, si on veut poursuivre, c'est-à-dire judiciairement, c'est pas la fin du chemin, un classement sans suite. On peut saisir un juge d'instruction pour qu'il enquête tout de même à notre demande. Ils savent très bien que j'ai encombrement des six malheureux juges d'instruction sur Nantes qui sont là pour enquêter sur les choses les plus graves à la base. Hein. Normalement, les juges d'instruction s'enquêtent sur les crimes. Vu qu'ils sont complètement débordés, le parquet sait très bien qu'en classant sans suite, ça nous condamne, nous, à attendre 3, 4, 5 ans avant qu'une instruction puisse vraiment se lancer.
Donc en fait,
voilà, exactement, je veux dire, les pauvres clients qui sont pris un énorme lion à coup de flashball, 6-7 ans après les faits, il y a un moment, le bleu, il est passé, l'humiliation RS, enfin, ils ont plus envie, voilà, c'est je peux tout à fait comprendre. Donc en fait, il y a cette notion un peu laborieuse de on joue la montre, en fait, du côté du parquet. Sinon, les réponses à apporter, elles sont plus judiciaires, après, c'est politique. Bon, c'est le premier et second du terme, c'est-à-dire que là, c'est aux partis politiques, c'est aux associations, c'est aux membres militants de se mobiliser, ce qui est fait, hein, ce qui est en train de progresser pour dénoncer les violences hors d'un cadre judiciaire, mais dans un cadre médiatique, dans un cadre démocratique de débat, en disant, ben voilà, ces faits-là ne sont pas poursuivis, est-ce que c'est bien normal? Déjà, est-ce que c'est bien normal qu'il ait lieu? Et est-ce que c'est bien normal qu'il ne soit systématiquement pas poursuivi? Etc. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose, moi, qui m'échappe plus. Donc il faut absolument saisir.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, en soulevant le problème politique de ce fait-là, le 4 novembre dernier, il y avait le débat sur la loi de sécurité globale. Je voudrais juste faire un petit focus sur deux articles de cette loi qui a été débattue en urgence. L'article 22, lui, légalise la surveillance par drone et donc légitime aussi une surveillance de masse pendant les manifestations. Et une surveillance individuelle allant jusqu'à la traque d'un individu repéré par drone. Et de ce que j'ai lu sur une petite analyse de la Quadrature du Net, qui est aussi publiée sur Mediapart. Et l'article 24, quant à lui, interdit tout simplement à quiconque de filmer et de diffuser des images de policiers. Cette loi met quand même vraiment en danger la liberté d'expression des citoyens, le droit de se défendre aussi et d'apporter des preuves, notamment par la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi ?
C'est absolument scandaleux. Et je trouve que les politiques jouent à un jeu dangereux. C'est-à-dire qu'on a déjà observé ces dernières années que le politique était en situation de faiblesse face aux policiers, aux syndicats policiers. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'on se rend compte que le ministère de l'Intérieur n'est plus maître à bord de son ministère, mais qu'il est soumis au mouvement d'humeur des syndicats policiers. Bon, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on voyait les policiers en armes manifester sur les Champs-Élysées, menaçant d'aller jusqu'à l'Élysée. Voilà. C'est-à-dire, là encore, vous changez les policiers en armes par jeune excité ou black bloc, et c'est un scandale, et la France a peur, etc. Mais c'est des policiers avec des armes, et d'un coup, plus personne n'en parle, parce que les syndicats policiers menacent à tout moment de faire grève, de ne plus protéger les députés, etc., etc. Et donc, de cette situation de faiblesse, le gouvernement, en tout cas les ministres de l'Intérieur successifs, plutôt que de taper du poing sur la table et de dire « Non, mais attendez, c'est le politique qui impose aux policiers et pas l'inverse », se retrouvent à essayer de les amadouer, en passant des lois toutes plus liberticides les unes que les autres, parce que là encore, ça n'a pas beaucoup fait parler, mais on le voit maintenant dans les dossiers. Suite au mouvement Gilets jaunes et aux trois malheureux posts Facebook qu'il y a eu mettant en cause des policiers, a été passée une loi autorisant les policiers à faire leur procédure de façon complètement anonyme, ce qui veut dire qu'on s'est retrouvé avec des procédures où on ne savait pas qui faisait quoi comme procès-verbal en procédure, ce qui était quand même un peu compliqué. Toutes les procédures étaient anonymisées. C'est complètement délirant. Donc ça, il y a des contentieux qui sont en cours devant la cour d'appel et devant la cour de cassation, mais pour l'instant, ça tient. Ils ont le droit de faire toute leur procédure de façon anonyme. Et donc maintenant, on vient nous dire, non seulement ils vont pouvoir faire toute leur procédure de façon anonyme, donc on ne saura pas qui dénonce quoi, qui fait quoi comme PV, etc., etc., on ne pourra rien vérifier, mais alors en plus, maintenant, on n'aura même pas le droit d'apporter des preuves, puisque les visages devront être floutés. Moi, je veux bien, mais sans même parler de mettre en danger les policiers dont le visage serait exposé à une foule vindicative en ligne. Je dis juste, moi, dans mon boulot d'avocat, si on vient me dire « telle interpellation se passe mal, on poursuit pour rébellion » et que moi j'ai une preuve vidéo avec des visages pas floutés mais qui montre que l'interpellation se passait très très bien jusqu'à ce que le policier mette un coup de matraque malheureux, moi, cette vidéo-là, je vais pouvoir la produire. Et cette loi-là nous emmène sur le terrain glissant de « on ne peut plus rien dire contre la police parce que, vous comprenez, ça froisse leur ego ». C'est complètement surréaliste. Donc, mais si on analyse ça en prenant un peu de recul, on est encore sur un cadeau donné aux syndicats de policiers qui se présentent systématiquement comme des martyrs, qui refusent toute critique de la façon dont fonctionne la police, alors qu'il y aurait des choses à dire, y compris pour les syndicats policiers, qui pourraient dire « mais attendez, vous avez vu la souffrance au travail qu'il y a, dans lequel il y a des collègues qui craquent, on n'a pas de moyens, les locaux sont dégueux, etc. Voilà. » Non, ils ne se saisissent pas de ça, ils demandent que des lois qui, finalement, donnent l'absolution complète aux collègues qui font n'importe quoi, protègent aussi ceux qui font mieux leur travail, et permettent pas de faire le ménage dans leur rang. Et moi, j'y vois vraiment une perte de pouvoir du politique face aux policiers, et qui m'apparaît sur le long terme extrêmement problématique.
On peut même aller jusqu'à dire que c'est une loi liberticide. En manifestation, quand il y a des violences policières avérées avec des preuves, comme on le disait tout à l'heure, en général, les affaires sont classées sans suite. C'est très compliqué de porter plainte contre un policier, même quand on a des preuves.
La logique, il y a encore quelques dizaines d'années, c'est que c'était pour les professions qui avaient un pouvoir exorbitant, c'est-à-dire les policiers, les militaires, c'est un peu différent, mais les notaires, les avocats, les juges, etc., etc., il y avait des responsabilités qui étaient données, il y avait des pouvoirs qui étaient donnés, du faire usage de la force, une certaine crédibilité quant à la parole, la notion d'être assermenté, etc., etc. Mais en échange de cela, lorsqu'on déconnait, les sanctions étaient plus lourdes, puisqu'on avait porté atteinte à la confiance publique. Un notaire qui faisait un faux, ça devait aller devant la cour d'assises. Un policier commettait des violences, c'est une circonstance aggravante à la base. Des violences peu graves, mais faites par un agent de la force publique, c'est automatiquement un délit. Voilà, il y avait cette notion d'aggravation
de ce qui est fait. Et maintenant, on arrive à un système complètement hallucinant où c'est une logique inverse qui commence à s'appliquer. Bah parce qu'il ne faut jamais remettre en cause l'autorité qui ne tient que par le recours à la force, puisqu'il ne faut jamais contester l'autorité, et bah finalement on passe tout à ceux qui exercent cette autorité lorsqu'ils dépassent les bornes, parce qu'il ne faut pas mettre en cause finalement cette espèce de pacte qui consiste à dire « Ah non mais attention, de toute façon vous l'avez un peu cherché, faites pas de vagues et il ne vous arrivera pas de basure. » Et donc on a complètement inversé la logique qui consistait à dire bah, « Vous avez plus de pouvoir, donc vous avez plus de responsabilité. » Maintenant c'est « Vous avez plus de pouvoir et surtout il ne faut pas venir vous froisser. » Parce que après tout, on n'est pas là pour faire de vagues. Oui, c'est moi, c'est cette inversion de logique qui me paraît complètement surréaliste.
Le rapport de force n'est pas le même de base.
Mais oui, la logique du procureur de ne pas poursuivre systématiquement, moi, m'apparaît hallucinante parce que c'est le procureur il devrait être sûr. Mais attendez, mais faut que je trouve tout de suite celui qui abuse de sa force parce que potentiellement c'est dangereux, puis oui. ça porte atteinte au pacte républicain, c'est ça l'idée. Voilà, les citoyens, ils acceptent historiquement ou philosophiquement. Le pacte social, c'est ça, c'est qu'on accepte tous de perdre cette capacité de violence qu'on a en nous, on la confie à l'État pour qu'elle soit exercée par cet État, mais en échange de cette confiance-là, il y a effectivement un contrôle strict qui doit être fait sur ceux qui ont le monopole de cette violence qu'on leur a confiée. Or là, on leur confie la violence et on refuse toute possibilité de contrôle par les citoyens sur cette violence qu'ils ont confiée. C'est pas possible.
Quand on lit ça, on se dit que là, on va vers des dérives inimaginables et on se demande comment on pourrait repenser la liberté de dénoncer et de résister avec une loi aussi répressive.
Ce qui est assez dingue, c'est que c'est des discussions qu'on n'aurait pas imaginé avoir il y a 10 ans, je pense. C'est une dérive et le problème avec ces dérives-là, c'est qu'au bout d'un moment, texte après texte, l'opinion peut apparaître comme un peu anesthésié, comme après tout, oui, bon, d'accord, qu'est-ce que ça a changé à mon quotidien, après tout, moi, je manifeste jamais, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il y ait des drones au-dessus, puis de toute façon, c'est pas des drones tueurs, c'est juste des gens qui filment, et puis si je casse rien, j'ai rien à me reprocher. Vous voyez, on s'habitue par de longs glissements à des situations qui, lorsqu'on les regarde froidement, nous différencient plus sur ce plan-là, je parle de la gestion des manifs, de la Chine, ou du Yémen, ou quand sais-je encore. Je remarque maintenant avec intérêt qu'on en est rendu à se féliciter de pouvoir faire de la reconnaissance faciale de masse, pouvoir savoir qui participe à quelle manif, etc., etc. Voilà, dans une espèce de joie sécuritaire globale. Ça m'apparaît délirant. J'attends de voir ce que va en dire le Conseil constitutionnel, j'attends de voir ce que va en dire la Cour européenne des droits de l'homme. Mais je remarque que tout ceci passe aussi dans un contexte d'état d'urgence sanitaire où les gens sont ensevelis sous les mesures plus répressives les unes que les autres, alors qui peuvent être fondées là-dessus, c'est tout autre débat. Hein. Mais en tout cas, on profite de cette actualité pour faire passer encore plus de textes où à la fin, plus personne ne fait gaffe à rien. Je parle de l'immense majorité de la population qui a autre chose en tête pour le coup. C'est pas complètement anodin non plus. Je trouve ça extrêmement inquiétant, surtout vu l'accumulation de textes qui ont moins attiré l'attention. Vraiment, je repense à l'anonymat des policiers, mais voilà, dont l'accumulation va rendre extrêmement difficile tout contrôle de l'usage de la force.
Et est-ce qu'on peut encore imaginer, avec une vision un peu plus positive et optimiste, une façon de résister malgré toutes ces répressions, toutes ces lois ? Imaginer encore une manière de pouvoir prendre la rue pour exprimer ses positions et se défendre ?
Ils l'ont fait à Hong Kong, on veut bien le réussir à Nantes, mais déjà ce qui avait été envisagé par certains militants, que je salue au passage, l'usage de parapluies, voilà, qui a été pas mal utilisé avec succès, notamment par les étudiants hongkongais, l'usage de laser pour aveugler les drones. Et c'est dommage là encore, on est sur une stratégie de l'attention, parce que par le gouvernement, parce qu'une fois que les manifestants qui veulent manifester une opinion, un ras-le-bol, vont utiliser des méthodes de contestation non violentes, mais en tout cas proactives, on va les taxer de, voyez, ils s'organisent pour pas être reconnus, c'est bien qu'ils ont quelque chose à cacher, etc. Et c'est ça la stratégie de l'attention gérée par le gouvernement, qui est assez insupportable. Il y aura des solutions, puis il y aura aussi des solutions juridiques, parce que moi, en l'état actuel, je peux pas imaginer que tous les juges valident une situation où le manifestant devient suspect de facto, quoi. C'est-à-dire où sa simple présence devient en tant que tel suspect. Je peux pas imaginer que ça reste comme ça. Je suis peut-être naïf, hein, ou je suis optimiste, mais...
Je pense qu'on a besoin d'entendre ça, surtout après avoir discuté de tous ces points un peu noirs, au contraire. Merci beaucoup, M. Riet.
De rien, au plaisir.
C'était La Quotidienne avec une membre du collectif de collage féministe de Nantes et Maître Pierre Huriet, avocat au barreau de Nantes. Si vous avez été sensible aux récits des interpellés, sachez que vous pouvez toujours les soutenir financièrement pour faire face aux frais judiciaires en faisant un don sur la cagnotte prévue à cet effet que vous retrouverez sur leur page Instagram collage-féministe-nantes ou sur leur Facebook. Merci pour votre écoute.